France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
28 films en 25 ans et il se paye le luxe d'en sortir deux coup sur coup cet automne. Le réalisateur roumain Radoujoud sera mon invité à partir de 13h. Mais chaque mercredi, on s'y plie, la critique cinéma avec le comique révolutionnaire du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, et le comique socialo-familial du film d'Anthony Cordier, Classe moyenne. Vous écoutez les midis de culture, surtout dites-le à tout le monde. Et eux, ils ont beaucoup à dire, enfin en tout cas j'espère, aujourd'hui, les critiques du jour. Adrien Desnouettes, critique et enseignant, bonjour.
Bonjour.
Et Muriel Joudet, critique au journal Le Monde, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. 18 ans après le vertigineux There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, PTA pour les intimes, retrouve le désert californien pour une bataille après l'autre. C'est la deuxième fois qu'il adapte un roman de Thomas Pynchon. Adaptation libre, dirons-nous, puisque là où Pynchon situait son action entre les années 60 et 80, Paul Thomas Anderson reste résolument dans le contemporain et même quelque part l'ultra actuel. Nous avons donc là Bob, incarné par Leonardo DiCaprio, un ancien révolutionnaire, expert en explosifs, que la vie n'a pas vraiment épargné. Il va devoir pourtant se bouger puisqu'il faut sauver sa fille des griffes d'un abominable colonel suprémaciste blanc joué par Sean Penn. Au menu du spectaculaire farcesque, des flingues, des bagnoles et une Amérique rongée par un fascisme qui ne se contente pas de ramper. On commence avec un avis rapide d'Adrien Desnouettes.
Avis rapide, c'est très simple. J'ai vu le meilleur film de l'année.
Wow.
Le problème, c'est que ça ne concerne que les 30 premières minutes du film, qu'il en reste 2h20, et 2h20 pendant lesquelles je me suis copieusement ennuyé.
Muriel Joudet.
Moi, j'ai eu un effet très bizarre où le lendemain, j'avais oublié la deuxième moitié du film. Donc, ça correspond un peu à ce que décrit Adrien, c'est-à-dire un film qui me file entre les doigts et en même temps, ça reste Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de la production contemporaine en termes de sophistication, de mise en scène et d'auteurisme. Mais il m'en reste plus grand-chose.
Bon, on va écouter la bande-annonce d'un Une bataille après l'autre.
What I'm doing here is I'm creating a closed circuit. Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge.
Don't stop.
I want you to create a show. This is an announcement, a revolution.
The message is clear.
I'll be seeing you very soon.
Not if I see you first.
Viva la révolution!
Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur.
Oui, là, faut que tu comprennes que
ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé.
J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris.
Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries.
Putain, papa, c'est quoi ton problème?
T'as raison, on y va.
Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Alors on va se concentrer sur le positif. D'abord, Adrien Desnouettes, qu'est-ce qui se passe dans ces 30 premières minutes qui font que c'est le meilleur film de l'année?
Il se passe un très très beau... C'est-à-dire que le film convertit toutes ses promesses de ce qu'on vient d'entendre, de la bande-annonce, c'est-à-dire un très très beau film d'action. Je pense vraiment, et je l'ai vécu comme ça en tout cas, j'ai eu l'impression de retrouver, vous savez, le meilleur Michael Mann. Le Michael Mann d'il y a 30 ans, celui de Hit. Celui qui arrivait à la fois à mélanger le lyrisme, le romantisme et une très très grande efficacité dans le film d'action. Et j'ai vraiment, à un moment, j'ai cru que j'allais vraiment assister au meilleur film de l'année et un très très bon Paul Thomas Anderson. Je continue là-dessus, je continue sur le positif, c'est-à-dire que la première
partie,
on va avoir tout le temps de relativiser tout ça, mais la première partie du film est vraiment très très belle, c'est-à-dire que elle s'attache certes à vous plonger dans un espèce d'univers de militants qui donc font pratique des actions peut-être dans les années 2000, c'est qu'on est vraiment dans une espèce d'activisme politique, mais au sens très très fort où la mise en scène et toute la forme du film épouse cette vitesse, cette condensation des émotions, ça s'apprend et hyper bien. C'est-à-dire que vous êtes avec le meilleur Paul Thomas Anderson, qui est un excellent monteur, qui est un excellent travailleur du son. Il y a une BO qui est sublime, franchement la musique est très très belle, le jeu est sublime et surtout tout ça est incarné et cristallisé par un très beau personnage central, qui est celui de la mère. Or, on y reviendra tout à l'heure, mais en fait, toute l'autre partie du film, donc les 2h20 restantes, vont basculer du point de vue de la fille. Et je vais rester sur le personnage de la mère. Il est très très beau. Il est joué par une actrice que je ne connaissais pas, qui est une rappeuse, actrice, enfin, qui fait plein de trucs, qui s'appelle Tayana Taylor. Et qui, en fait, incarne de manière très symbolique tout ce que le militantisme révolutionnaire peut avoir de séduisant. C'est-à-dire qu'elle est, très cinéma, quoi. Elle est bigger than life. Elle a des lèvres hyper pulpeuses. En plus, je pense que, je précise, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très rare, je pense que tout est naturel. Elle est vraiment,
Mais c'était une précision.
Non, mais c'est incroyable. Quoi, elle est vraiment sublime. Et elle est filmée comme ça, elle est regardée comme ça. Et elle est même tellement séduisante et filmée dans cette séduction qu'elle l'est même du point de vue de ce fameux suprémaciste blanc hyper cartoonesque qui est joué par Sean Penn. C'est-à-dire qu'il y a une très belle scène où vraiment on la regarde, on se dit oula, trigger warning, on est en train de regarder un énorme fessier. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans le point de vue très pervers du méchant. Et en même temps, on se rend compte que le film a joué à nous mettre de ce point de vue-là. Et donc, en fait, on est aussi du point de vue du personnage de Leonardo DiCaprio, donc l'autre personnage principal du film qui est un peu le fil conducteur de tout ça. Et je me dis, ok, ça marche super bien, c'est parfait. C'est-à-dire que cette espèce d'énorme prologue, 15 ans plus tôt, d'une demi-heure, enfin vraiment, c'est peut-être même 35 minutes, se termine, mais vraiment en apothéose. Et là, mais j'ai presque les larmes aux yeux, ça marche trop bien. Et c'est pour ça que je ne vais pas dissuader le public d'aller voir le film. Allez le voir pour ces 35 premières minutes. Je pense vraiment que on est quasiment du niveau d'un hit de Michael Mann, hein, vraiment. Même en termes de mise en scène de films d'action, je pense par exemple à cette espèce de, il y a une exfiltration d'un braquage qui se passe mal, qui se passe dans un trafic de voitures, et on prend vraiment le temps de montrer comment c'est difficile de s'extirper d'un trafic de voitures quand on essaie de s'en sortir et comment les voitures rentrent. Enfin, il y a cette espèce de plaisir documentaire du braquage très naturaliste du film d'action que je n'avais pas vu depuis des années. Et là, comme disait Muriel tout à l'heure, je retrouve Paul Thomas Anderson qui est peut-être l'un des trois meilleurs cinéastes de sa génération avec David Fincher et Quentin Tarantino. C'est-à-dire qu'on est à ce niveau de sophistication-là. Le problème, et je vais peut-être laisser la parole parce qu'on va
rester sur le positif et puis après on viendra au propos.
Ah bah on viendra au négatif après.
Muriel Joudet.
Non, mais je suis d'accord avec Adrien, puis en plus c'est une première partie qui est montée presque comme une sorte de bande-annonce, puis on est à la surface des choses, c'est une sorte d'exergue, d'épilogue qui est pas, où les scènes s'installent pas, on nous fait une sorte de résumé de ce qu'a été la vie de ce couple de révolutionnaires, et on nous montre comment l'amour et la révolution, voilà, ils posent une bombe, ils ont tout de suite envie de coucher ensemble au moment où la bombe explose. C'est assez beau, et puis, moi je pense que Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un qui a un rapport très fort à ses actrices, au sens où vraiment il est amoureux de ses actrices. C'était le cas de Vicky Krieps dans Phantom Thread. Et là, c'est le cas de Tayana Taylor. Il y a le premier plan sur elle. Je me suis dit, bon, ok, il l'aime, c'est bon. Et alors, je pense qu'il faut commencer à basculer sur le problème. C'est que moi, j'ai vu ce personnage d'afro-américaine révolutionnaire. Voilà. C'est dur de pas raconter le film, mais je vais pas raconter. Et je me suis dit, c'est le grand autre du cinéma de Paul Thomas Anderson. C'est quelque chose qui n'a pas filmé. Et je pense qu'on s'est dit la même chose avec Adrien. On veut voir ça, en fait. On veut voir ce que c'est un Paul Thomas Anderson qui suit un personnage de femme noire révolutionnaire. Et en fait, là, on tombe dans le... Alors, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'on tombe dans le syndrome Kramer contre Kramer.
Kramer contre Kramer.
Qui est donc ce film de Robert Benton avec...
Années 80.
C'est ça, qui commence par Meryl Streep, qui est une femme qui se rend compte qu'elle est engagée dans sa vie domestique et qui se barre pour s'émanciper et vivre, voilà, sa propre révolution intime et féministe. En laissant l'enfant, en laissant Dustin Hoffman au début du film, se dépatouiller avec qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire la vie domestique. Et alors, en 1979, moi j'adore Kramer contre Kramer, mais il y a un problème, c'est que il y a un film qui reste hors champ, qui est l'émancipation de la femme. En 2025, j'ai un peu du mal à voir un personnage aussi fort, qui est plus fort que celui de Leonardo DiCaprio, disparaître comme ça. Je suis désolée de le raconter, du coup, ce qui se passe au bout de 35 minutes. Disparaître comme ça, et j'ai l'impression que ça soulage Paul Thomas Anderson, qui se dit, en fait, j'ai plus d'imagination pour ce personnage. Moi, cinéaste qui s'est toujours intéressé aux hommes, et à des duos d'hommes, là, j'ai plus d'imagination pour une femme afro-américaine. Alors même que je le dis d'autant plus que le projet du film est un projet de film politique. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération de cinéastes, je pense à James Gray, je pense à Ari Aster, et donc à Paul Thomas Anderson, qui se disent là, bon, il se passe quelque chose depuis 10 ans dans notre pays, il faut que les deux mandats de Trump soient inscrits quelque part dans le cinéma américain, donc on va faire des films politiques, donc c'est un film qui se veut politique, mais qui ne l'est pas du tout, en dehors de ses 40 premières minutes. Et donc, le film se rétracte et dit, en fait, on va être sur une vieille formule qui est, en gros, le portrait amoureux de Leonardo DiCaprio et Sean Penn. Et on va retourner dans la petite chambre de cinéphile qui a toujours été le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire l'héritier de toute cette vague du nouvel Hollywood qui rumine plus des références cinématographiques que des événements politiques. Mmh. Et pour moi, le film est, à partir du moment où le film se croit politique mais ne l'est jamais en dehors de ce début, je trouve qu'il y a une... Voilà, pour moi, il y a presque une faute morale à sacrifier le seul personnage politique du film.
Alors, moi, je suis très étonnée, parce qu'effectivement, 2h30 de film, qu'est-ce qu'il nous raconte après, si c'est pas politique?
Ce qu'il nous raconte je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Muriel, et je vais abonder dans ce sens-là avec mes mots et ce que j'ai ressenti. Ce qui se passe après, c'est une substitution de personnage principal. En fait, il y a tout ce premier film qui est une espèce d'ode clipesque. Muriel disait une grande bande-annonce, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qu'il avait à consacrer, cette espèce de regard fasciné qu'il avait à consacrer au premier personnage principal, qui était celui de la mère, ça prend cette forme-là. Et ça prend très, très bien. Le problème, c'est qu'en fait, il y a le vrai film après, qui est celui d'un père. Je pense que Paul Thomas Anderson a énormément besoin de se projeter en fait dans ses personnages principaux. C'est le cas des meilleurs films d'ailleurs. C'est le cas de Phantom Thread, c'est le cas du dernier, Licorice Pizza. Et là, il se projette dans la relation d'un père qui est joué par Leonardo DiCaprio, dans la relation qu'il a avec son adolescente de fille, qui est extrêmement belle, qui est même traitée de manière presque sublimée. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, Paul Thomas Anderson ne sait plus du tout ce qu'il raconte. En fait, il y a une espèce de film qui se substitue à l'autre. Et surtout, il fait cette énorme erreur, selon moi, qui est d'essayer de rendre crédible un personnage d'adolescent parfait, pur, qui serait le fruit donc de cette relation du début du film. Et là, ça n'est plus du tout intéressant. C'est-à-dire que le film échoue partout. C'est-à-dire qu'il devient vraiment ennuyeux. Je pense à cette grande, grande phase qui s'étire, qui n'en finit plus de s'étirer dans une comédie affelant autour du personnage de Benicio del Toro, où on essaie de joindre quelqu'un dont on ne trouve pas les codes, ça ne marche pas en fait. Toute la comédie.
L'épreuve de judo, c'est ça.
C'est ça qui est preuve de judo, qui est censé être un personnage bon complètement fantasque et tout ça, comme tous les personnages du film. Mais le moment où le film essaie de basculer dans la comédie, en se transformant en une espèce de prisonnière du désert d'aujourd'hui et en prenant position dans la bataille culturelle, en fait, ce qui n'a absolument rien d'original. C'est-à-dire que Paul Thomas Anderson, comme les autres cinéastes de sa génération, dialogue avec le péché originel du cinéma américain, qui est Griffith, qui est la bataille de la naissance d'une nation et l'idée qu'en fait le grand spectacle américain est né raciste. Mmh. Et donc nous, on va faire des films anti-racistes. Il y a pas grand chose extrêmement original là-dedans, et c'est même, je trouve, très démago. Et je trouve que cette démagogie, elle s'incarne dans ce deuxième personnage principal, qui est la fille, qui est jouée voilà, par Chase Infinity, et qui est, à mon sens, beaucoup trop belle pour que le film devienne intéressant. D'abord, moi, il y a un truc personnel que j'ai du mal à me décroter. Je n'arrive pas à croire dans des personnages d'adolescents purs, des personnages d'adolescents intéressants et traités de manière beaucoup trop sublimée. Pour moi, un adolescent, c'est un mutant irritant entre le mollusque et le singe, et le seul qui a réussi à toucher cette vérité, c'est Riyad Satouf dans Les Beaux Gosses. Le cinéma américain, je veux dire, on voit bien à quelle source il va s'abreuver. Genre, je pense à River Phoenix dans le film de Sidney Lumet, là. Je me souviens plus comment il s'appelle.
À bout de course.
À bout de course. Voilà. On est vraiment dans cette tradition-là d'essayer de offrir des très très beaux rôles d'adolescents d'aujourd'hui impliqués, militants. Et vraiment, le film, en fait, épouse cette aporie, cette erreur qui est de croire qu'on peut rendre crédible et toucher une vérité quelconque d'un point de vue politique avec des personnages aussi purs et aussi abstraits.
Ah bah, c'est alors, parce que moi, justement, en fait, à chaque fois qu'il y a un moment de réel, c'est-à-dire cette femme révolutionnaire, et puis, en fait, moi, ce que je trouve ça assez beau, la manière dont Paul Thomas Anderson filme une petite tribu d'ados woke. Et
mais les autres sont très bien.
Et ils sont, en fait, ils les filment avec énormément de tendresse et je les trouve très beaux, ces adolescents. Et je me dis, mais là, il y a un problème de star system à Hollywood, c'est-à-dire que moi, je veux voir la femme révolutionnaire, je veux voir les ados woke et je me tape Leonardo DiCaprio pendant 2h40, que j'aime beaucoup. Mais en fait, il y a un problème où on a substitué à la réalité. En fait, je sens le film partagé entre son envie de montrer autre chose, de montrer un réel complètement vibrant, et puis le premier film de Paul Thomas Anderson avec DiCaprio et Paul Thomas Anderson qui vraiment se complaît dans une succession de scènes où DiCaprio est en roue libre, donc il est sur son canapé en train de fumer des joints.
Dans son registre de confort depuis quelques années.
Voilà, oui, c'est ça.
Un imbécile léger.
Ouais, un idiot dépassé par les événements.
C'est ça, c'est vraiment ce fil rouge du il est sur une hotline antifasciste et on lui demande un mot de passe. C'est assez marrant, mais ça dure des plombs, mais on se dit, mais bon, on a compris. Moi, je trouve toujours très appuyé les moments de bravoure et de performance de DiCaprio. Et là, je me suis dit, quand même, quoi. Là, on est en train de sacrifier tout un pan du film qui est passionnant pour voir ce DiCaprio. Et là, j'ai vraiment vu un film qui avait deux cerveaux entre un film politique et un film sur DiCaprio et une romance entre DiCaprio et PTA, et puis entre Sean Penn par ailleurs, c'est pas
alors
possible.
Voilà, Sean Penn, pas possible pour vous, Muriel.
Bah, en fait, Disons que je me suis dit devant le film, c'est marrant, j'ai adoré ce cinéma de garçon, j'ai adoré ces cinéastes qui filmaient des hommes, qui aimaient des hommes, cette homosocialité, c'est ma cinéphilie. Et là, j'ai vu la fin de ce truc-là. Je me suis dit, en 2025, parce que le film thématise ce truc-là, il est en train de dire, bah, en fait, je préfère encore filmer des mecs qu'on a vus pendant 10 000 ans au cinéma, plutôt que des personnages passionnants qu'on n'a jamais vus. Le film dit littéralement ça. Et là, j'ai vu la fin de ma propre cinéphilie à l'écran. Je me suis dit, mais en fait, le répertoire des figures possibles sur ces corps-là, sur ces hommes-là, c'est comme s'il était épuisé et que le film n'avait plus rien à faire et plus rien à dire sur DiCaprio et raté son sujet qui est donc ce film sur une Amérique contemporaine que, en fait, Paul Thomas Anderson se sent obligé de faire ce film-là mais ne le fait jamais.
Et surtout, là où ça fonctionne pas, et je suis très déçu de la part de Paul Thomas Anderson, c'est qu'il essaie de faire deux choses qu'il n'a jamais réussi à faire et que sa génération ne sait pas faire, c'est-à-dire parler, épouser, donner le point de vue d'une femme, d'une jeune femme. Il sait pas le faire, en fait. C'est quelque chose qui est trop compliqué pour lui, comme disait Muriel, et faire un vrai film politique qui se positionne sur les droits civiques. D'autres savent le faire, d'autres l'ont mieux fait. Ces deux choses-là, pour moi, il y en a deux qui ont réussi à le faire. Plutôt qu'en fait de le situer dans l'espèce de continuité du nouvel Hollywood, pour moi, Paul Thomas Anderson, c'est vraiment la génération des années 90, le cinéma postmoderne, distancié, qui va jouer un peu avec les jouets des autres. Et un truc que, par exemple, faire le film pour ses ados de filles, il y en a un qui a très bien réussi à le faire, il a vraiment réussi à se mettre dans ce point de vue-là, c'est Fincher avec Girl with a Dragon Tattoo. Il a vraiment accepté d'abandonner tout ce qu'il avait fait jusqu'ici et de vraiment d'épouser le point de vue d'une jeune femme en essayant d'être le plus badass possible. Ce film-là, celui de Paul Thomas Anderson, n'y arrive absolument pas parce qu'il se fait une idée complètement préconçue de ce qu'est une ado. Et d'ailleurs, le film n'arrive même pas à raconter quelque chose de cette relation entre Leonardo DiCaprio et son ado de fille. C'est-à-dire que, en gros, c'est quoi? C'est l'idée d'un apprentissage du papa qui doit apprendre à laisser sa fille voler de ses propres ailes. Voilà, oui, c'est tout bête.
C'est encore la fille qui éduque le père.
C'est la fille qui éduque. Sauf qu'en fait, ça n'arrive même pas. C'est-à-dire quand je n'évente rien, mais il y a une espèce de retour à l'ordre, une espèce de happy end, duquel on ne sait pas trop quoi en tirer et qui prouve bien que Paul Thomas Anderson n'a pas su quoi faire de son personnage principal. Et sur Sean Penn, j'y reviens.
Un dernier mot sur Sean Penn.
Ouais, il y a un truc qui est insupportable, c'est qu'en fait, il joue le suprémacisme blanc d'un point de vue très caricatural, mais là encore, c'est chauffé à blanc et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, le film est une apologie du métissage. Et c'est là que je trouve extrêmement démagogue. C'est-à-dire que Sean Penn, qui va être la version la plus dégénérée possible de son camp, c'est-à-dire le suprémacisme blanc, va être opposé de manière hyper manichéenne au grand métissage d'en face, qui va être évidemment traité exagérément de manière positive. Et tout ça ne scelle aucun enjeu, tout ça n'aboutit à rien, et je pense que c'est l'une des pires fins de films de Thomas Anderson, qui est une fin de sitcom en fait, c'est un retour à l'ordre.
Ça sera la très belle fin de cette critique, pardon Muriel, je vous coupe, mais il faut qu'on parle d'un deuxième film.
C'est vrai.
Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
C'est le quatrième long métrage du français Anthony Cordier qu'on n'avait pas revu derrière la caméra depuis la série OVNI qui était diffusée sur Canal+ en 2020. Cette fois, il co-signe aussi le scénario de Classe moyenne. Nous sommes dans une belle maison du sud de la France. C'est la résidence secondaire de Philippe et Laurence, deux grands bourgeois, interprétés par Laurent Lafitte et Élodie Boucher. C'est aussi là que vivent les gardiens de la maison, joués par Ramzi Bedia et Laure Calamy. Les premiers sont odieux, les seconds veulent plus d'argent. Tout ça va très mal tourner. Et le jeune Mehdi, qui espère réconcilier tout le monde, pourrait y laisser des plumes. Quelques mots rapides, Muriel Jeudet.
J'ai été prise au début par le film et après pour moi il y a quelque chose d'une sorte de qui est un peu une tendance aussi du cinéma en général de gadgetisation de la lutte des classes où on en fait une sorte de spectacle un peu inoffensif et voilà et à ce moment-là on se dit Chabrol nous manque.
Peut-être qu'il y fait référence d'ailleurs, je ne sais pas, Adrien Delmouette.
Moi j'ai pris j'ai été pris dans le plaisir communicatif des acteurs à jouer. Pour moi c'est vraiment un film d'acteur, un film de casting. Sauf que je ne crois pas une seconde dans sa méchanceté. Je trouve qu'il manque vraiment d'intégrité dans sa méchanceté. J'y crois pas une seconde en fait. Il fait semblant de faire un film de monstre, mais il prend beaucoup trop parti pour les pauvres.
La bande annonce de Classe moyenne.
Philippe, installez-vous, faites comme chez vous.
Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que justement il se trouve que cette maison est à moi. Que vous ne payez pas de loyer.
Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au Black,
pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur? Ça laisse pas de traces. Puis ce serait moins fatigant pour vous.
Que vous nous avez versé 800 euros par mois, soit bien moins qu'un SMIC. Du coup, on n'a pas pu cotiser pour la retraite.
Et non.
Donc, si on va devant un juge, ça pourrait vous coûter un redressement.
150 000.
C'est quoi l'objectif?
Ramener des ploucs à la raison.
En chiffres.
Ça, c'est 150 000. Et ça, c'est la raison.
Mais quel enfoiré!
On n'aura jamais votre argent.
Classe moyenne d'Anthony Cordier. Alors Muriel Joudet, Adrien Desnouettes disait que c'était pas un film assez méchant. Vous parliez de Chabrol, on y est un peu quand même, c'est ça qui manque.
Oui, dans le dossier de presse, Anthony Cordier en parle. Et moi j'étais restée très marquée par cette phrase de Chabrol quand il parlait de la cérémonie. Où il disait, c'est le dernier grand film marxiste, Chabrol, à propos de ce film-là. Il disait, je voulais montrer une bourgeoisie qui, individuellement, était innocente, mais collectivement coupable. Et pour moi, on peut pas faire plus intelligent que cette idée qui était parfaitement incarnée dans la cérémonie, au sens où, Isabelle Huppert et Sandrine Monnaire étaient horribles et finissent, enfin bon, voilà. Il y avait un truc comme ça, très très fin. Que je retrouve pas dans l'Anthony Cordier, mais qui est quand même très plaisant à regarder parce que déjà je trouve qu'il y a un effort de scénario et moi très souvent j'ai un problème avec les. En plus là c'est vraiment une mécanique bien huilée, c'est un engrenage donc il faut vraiment que ce soit très bien écrit et on sent l'effort qui a été fait au scénario donc qui est coécrit avec la scénariste Julie Père. Et puis il y a comme le disait Adrien, je suis tout à fait d'accord avec ça, une incarnation. Notamment du côté de la famille bourgeoise qui est, ils sont vraiment horribles. Et Élodie Bouchet, comme Laurent Lafitte. Laurent Lafitte qui n'est pas un acteur qui me passionne, mais pour moi, il a un registre qui est celui-ci. C'est-à-dire le grand bourgeois dégénéré, ce qu'on retrouve dans Elle de Paul Verhoeven. C'est-à-dire pour moi, voilà, c'est cet acteur ne peut que jouer ça. Et il le joue superbement. Et le film va aller chercher vraiment dans... Il va racler les contradictions de cette bourgeoisie. Et ils sont vraiment horribles. Enfin, vraiment, on a envie de les cramer, quoi. Ils sont parfaits dans ce rôle-là. Et on retrouve là quelque chose de Chabrol. Je trouve que la famille de pauvres est beaucoup moins bien caractérisée. C'est un peu plus ambigu. Parce qu'on nous dit qu'ils travaillent 3 mois. En gros, ce que je reproche au film, c'est de pas choisir son camp, bizarrement. C'est-à-dire qu'il met dos à dos. Il y a toujours cette idée un peu rassurante que ok, la lutte des classes c'est subversif dans la fiction, mais à la fin quand même tout le monde a ses torts, les pauvres comme les bourgeois, et donc le film met tout le monde dos à dos et pour moi c'est une manière de pas prendre parti. Et puis il y a ce personnage au milieu qui est joué par Sami Outalbali, deux jeunes arabes transfuges de classe qui en gros vient d'un milieu ouvrier mais a changé de classe par les études et qui attendent qui cherche un stage, qui a fait des études de droit, qui cherche un stage, qui demande un stage à Laurent Lafitte. Laurent Lafitte s'amuse à le martyriser. Et ce personnage-là est très intéressant d'un point de vue fictionnel, parce qu'il est nulle part. Parce que le film arrive à nous dire, en fait, il est ni dans une classe ni dans une autre. Il s'est dépris de sa classe, mais en fait, il sera jamais un bourgeois. Mais ce que le film fait avec ce personnage, je trouve assez violent. Enfin, je trouve qu'il y a là quelque chose, et Adrien, vous en parliez en off, et je pense qu'il y a un problème dans la fiction française, que ce soit dans L'amour ouf, dans 20 dieux, un problème au niveau de la figuration des Arabes au cinéma, que le film reconduit. Alors même qu'il crée un personnage qui est passionnant en termes de fiction, pour moi, la manière dont il est sacrifié dit bien qu'il y a quelque chose, un manque d'imagination, un manque de justesse morale, même à l'endroit de ce personnage, qui est la manière dont il finit. Pour moi, je me suis dit, mais il y a, c'est comme si, là encore, c'est ce que je disais un peu sur Paul Thomas Anderson, c'est comme si on était presque soulagé que ce personnage qui est profondément ambigu, qui redistribue les cartes du vaudeville lutte des classes, on était content qu'à un moment ils finissent comme ça.
Adrien Desnouettes.
Non, mais c'est exactement ça. De même que Paul Thomas Anderson n'a pas su se glisser dans du point de vue de son personnage principal, qui était une jeune femme. Là, le cinéma français ne sait pas se glisser du point de vue d'un prolo qui prendrait les traits d'un arabe. Or, c'est le personnage qui devrait s'imposer, en fait, aujourd'hui dans les comédies et qui s'impose ici dans ce film. Et pour moi, c'est le gros problème du film. J'ai pas beaucoup de temps, que je vais un peu assister là-dessus.
On est bien.
C'est le gros problème du film. C'est qu'en fait, c'était le personnage qui m'intéressait le plus. C'est évidemment celui-là qui est censé incarner la moyenne, qui est censé incarner cette espèce de classe introuvable alors qu'on est tous dedans, qu'est la classe moyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens de la classe moyenne, ce sont les Arabes. Et c'est ce personnage-là, c'est-à-dire un jeune Arabe qui vient évidemment d'un milieu populaire, je dis évidemment parce que c'est le cliché qui veut ça, on est dans de la comédie, et puis qui, par ascension sociale, se retrouve presque d'égal à égal avec une famille de grands bourgeois. Il a poussé la porte, ça y est, il y est. Et en fait, c'est sur lui qu'aurait dû reposer toute la méchanceté du film. Or, ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans tous les films français, c'est qu'on ne sait pas se glisser du point de vue d'un Arabe. Tout simplement, je pense, hein, parce que c'est le cinéma français est à majorité blanc, bourgeois.
C'est le grand autre. Quoi.
C'est le grand autre. Et puis on aime, je veux dire, c'est ce qu'il sait très bien faire. On va pas lui en vouloir de ça. C'est pour ça qu'on sait si bien se moquer des bourgeois, et ce depuis Molière. C'est parce que on sait très bien se moquer des nôtres. Le problème, c'est que à la fois l'autre famille, c'est-à-dire celle qui est jouée par Laure Calamy et Ramzy, et ce personnage-là, moi je trouve que tout sonne faux chez eux. Et il y a même un truc qui sonne très très faux et qui pour moi est coupable, même d'un point de vue Muriel parlait du scénario, et moi pour moi il y a un truc qui m'a complètement empêché de rentrer dedans, c'est que certes la comédie manipule des clichés, mais il faut quand même qu'il y ait une espèce de terreau de vérité, il faut quand même qu'on sente quelque chose, même si c'est grossi. Et en fait tout le conflit humoristique du film, c'est qu'en fait il y a une famille de bourgeois qui emploie une famille de pauvres. Et pendant une demi-heure, on se dit, bon, c'est un avocat qui est joué par Laurent Lafitte. On ne voit pas à quel moment les pauvres vont pouvoir faire exister quelque chose, un argument. Et en fait, on se rend compte au bout d'une heure de film, c'est dans la bande-annonce, hein, donc je n'invente rien, c'est qu'en fait, qu'ils sont employés au black. Et ça, c'est impossible, en fait. À ce moment-là, vous rendez compte qu'il y a une espèce de traitement très léger. C'est impossible qu'un bourgeois de ce niveau, de cette reine villa, avocat par-dessus le marché, donc quelqu'un qui est légaliste, puisse employer des pauvres sans tout en...
Ah, ça peut être un impensé, ouais. En pensant qu'il la justice, tu tomberas jamais dessus.
Anthony Corgier explique dans le dossier de presse qu'il s'est informé, qu'il a vu que plein de gens très riches faisaient ça, notamment Francis Ford Coppola, qui avait...
Mais alors, le conflit n'existe pas. Alors le conflit n'existe pas, parce qu'en fait, le bourgeois se sent toujours dans son bon droit. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très invraisemblable, même d'un point de vue caractérisation sociale. Et je trouve que le film joue... Moi, il y a un autre horizon de cinéma avec lequel je trouve qu'il joue, c'est vraiment la comédie italienne. Moi, ça me dérange pas du tout, en fait, qu'on se moque autant des pauvres que des riches. Il y a des gens qui arrivaient très très bien à faire ça. C'était Le Splendide dans les années 80 avec Le Père Noël est une ordure, pour le côté aussi boulevardier, pour le côté aussi... On va se moquer de tout le monde. Tout le monde est de toute façon risible, on est tous ridicules sous nos traits très français. Et là, je trouve que le film échoue à faire ça. C'est-à-dire que la morale du film, je dirais pas plus, mais la morale du film penche beaucoup trop du côté de la famille des pauvres. Et cette méchanceté-là, je la trouve, toute la méchanceté qu'il fait semblant d'avoir, je la trouve très poseuse, en fait. Et il y a un moment où j'arrive pas à rire avec lui. Parce que je trouve que tout sonne faux. Et là où j'y prends quand même grand plaisir, et je ne dissuade personne d'aller le voir, c'est quand même vraiment pour les acteurs. Muriel tout à l'heure disait que Laurent Lafitte a un rôle de confort. Moi, je trouve que Laurent Lafitte est excellent depuis quelques années. C'est vraiment un des meilleurs acteurs avec Marina Foïs j'adore Marina Foïs. Avec Marina Foïs et Alex Lutz. Et vraiment, ce film le met en valeur. Et vraiment, allez le voir, ne serait-ce que pour Laurent Lafitte. Vraiment, c'est quelqu'un d'excellent.
Un dernier mot, Muriel.
Non, en fait, en écoutant Muriel, je me dis, c'est fou. En fait, il y a cette sorte de. Moi, je trouve que vraiment, il choisit pas entre les pauvres et les riches, mais par contre, qui sauve un peu tout le monde, ou que tout le monde, voilà, a des torts, et que la réconciliation se fait, en fait, dans le dos de ce personnage d'arabe,
mais
en fait.
C'est ça qui est
terrible. Et en même temps, c'est terrible, parce que il y a presque un inconscient du film, et qui documente quelque chose de la France.
Ouais.
Qui est parfait.
Du coup, c'est peut-être pas mal, en fait.
Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal.
Bon, voilà, en fait, c'est pas mal. Classe moyenne d'Anthony Cordier. Merci beaucoup, Muriel Joudet. Merci, Adrien Denouette, d'être venu dans les Midi de Culture aujourd'hui. Maintenant, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée et vous retrouverez toutes les références de ces deux films sur la page des Midi de Culture.